Bonjour, c'est Judith. Retrouvez-moi pour votre émission Voyage littéraire sur RPV, Radio Pays Voironnais.
Voyage littéraire. C'est Judith qui est avec vous pour cette émission de lecture et de découverte. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle escale dans les pages écrites par les auteurs de notre pays voironnais et de la région.
Aujourd'hui, je vous emmène pas très loin, dans un petit village qui s'appelle Manestre, un petit village des Alpes, en 1944. La France vit sous le régime de Vichy et ce petit village, bien que reculé, voit finalement arriver l'occupation nazie jusqu'à lui. C'est le point de départ du roman Neige pourpre, un roman donc historique qui est signé Valérie Brun et qui nous entraîne à la suite de deux adolescents, Marcel et son petit frère Damien, qui constatent avec une certaine révolte que l'occupation s'installe bien dans leur village et qui sont très étonnés de ne pas voir la résistance s'installer autour d'eux. On y va ? Un après-midi, frustrés par l'inaction déroutante des autochtones, Damien et Marcel en vinrent à conclure un pacte. Jouer des tours aux occupants jusqu'à les aliéner, jusqu'à ce qu'ils déguerpissent. Ils n'étaient que des mômes, pourtant les boches allaient voir ce qu'ils allaient voir. Ils ne comptaient pas signer d'armistice, même sous la pression. Marcel fit tout de même promettre à son cadet de taire leur petite manigance. Le regard pétillant, le sourire aux lèvres. Damien s'imaginait déjà torturant les frisés, en leur faisant avaler de ces baies rouges qui refilent la colique, ou en cachant du poil à gratter sur leur matelas, afin de troubler leur sommeil. Les deux frères se mirent à épier, avec davantage d'attention, Manestre, ses habitants et ses tourmenteurs. À chaque office, le curé encourageait ses ouailles à prier Dieu avec ferveur et sincérité. Dès que l'église se vidait, le prêtre enfourchait son antique bicyclette et visitait les fermes, des messages roulés et glissés dans la tige de sa selle. L'instituteur, quant à lui, obligeait ses élèves à suivre le programme instauré par le gouvernement de Vichy. Le portrait du vieux Pétain, dépoussiéré, trônait en bonne place derrière le bureau de M. Julien. Mais le regard bienveillant du maréchal ne les couvait plus depuis que Marcel avait lancé des boulettes de papier mâché sur ses pupilles. Le docteur Bonneau claudiquait plus que jamais et évitait de passer devant la maison communale transformée en commandatour. Il n'osait pas non plus, malgré son laissez-passer spécial, réclamer de l'essence aux frisés alors qu'il pédalait de travers. De mauvaises langues, souvent avinées, racontaient qu'il avait des choses à se reprocher. Bientôt, des miliciens s'incrustèrent aussi, compliquant la tâche des deux jeunes rebelles. Damien maîtrisait du mieux qu'il pouvait la frousse que lui causaient ces chasseurs de partisans engoncés dans leur imperméable noir, béret incliné sur la tête, gamma bien en vue. Leur regard fourbe et leur humour gorgé de cynisme avaient le don de le mettre mal à l'aise. Au cours de leur filature, un homme les déçut particulièrement, parce qu'il était leur père et les avait toujours impressionnés. Taillé comme un ours, il possédait des épaules massives, des mains comme des battoirs et une voix autoritaire. Pourtant, il rampait devant les uniformes vert de gris, acquiesçait de façon obséquieuse à chacune de leurs requêtes. Il changeait d'itinéraire au moindre bruit de bottes. Les gamins voyaient différemment ce plantigrade devenu pusillanime. Oui, leur vieux les stupéfiait davantage que le maire et sa femme, perfides depuis toujours, courbant maintenant l'échine jusqu'à lécher le sol devant l'Hauptmann Schmidt. En loyaux vassaux, ils lui avaient fourni les registres de la commune et de nombreux secrets à propos des administrés. Malgré leurs efforts, le gros Schmidt les négligeait. Marcel avait parfois entreaperçu une lueur de haine animant le regard du SS lorsque le couple tournait les talons. Il crut même qu'il avait des comptes à régler. Les gosses apprirent beaucoup sur leurs congénères. Néanmoins, surveiller les environs ne les amusa pas longtemps. Rapidement, ils passèrent à l'action. Ils se défoulèrent sur les intolérables affiches qui recouvraient plusieurs façades. Elles définissaient leurs obligations vis-à-vis de l'autorité aryenne. Sautant sur la moindre opportunité, ils dessinaient de grotesques figures ou déchiraient les feuillets avant de déguerpir. Fiers et inconscients, les deux garnements filaient se cacher derrière un muret de pierre à l'affût des réactions. D'autres fois, armés de leurs lance-pierres, accroupis derrière les haies bordant le jardin de la mairie, ils visaient les carreaux des fenêtres du bâtiment dès que l'ennemi avait le dos tourné ou quittait une pièce. Leurs tirs atteignaient rarement leur cible, car il leur fallait agir vite, entre deux rondes ou à la faveur d'une relève. Ils interrompirent leur prouesse le jour où le curé les attrapa et promit de narrer leurs vils exploits à leurs parents s'ils ne cessaient pas de rechef. À l'idée de chagriner leur mère, Damien ne voulut plus accompagner Marcel, qui ne pouvait plus agir. Il avait besoin d'un complice pour faire le guet et n'avait confiance qu'en son cadet. Il proposa donc des activités moins audacieuses. Dorénavant, ils investirent de nouveaux lieux, et c'est ainsi que, furetant dans le grenier de l'oncle Pierrot, entre d'antiques malles et caisses de bois, ils tombèrent sur une poignée de tracts communistes, appelant les camarades à la résistance. Damien glissa un exemplaire dans sa poche de pantalon, puis ils se promirent de rejoindre l'une des sections pour proposer leur service. Surexcité, Marcel confia à son frère les arguments grâce auxquels il les convaincrait de les recruter. Leur petite taille et leur jeunesse les mettraient à l'abri des soupçons. Ils connaissaient la région par cœur. Essuyer des verres derrière le comptoir paternel ou balayer la sueur recouvrant le sol de la salle leur permettrait de choper des confidences opportunes entre les clients et... Marcel n'eut pas le loisir de poursuivre son discours. Une paluche le bâillonna, tandis qu'une seconde le saisissait au vol, son frère en fuite. Une fois de plus, ils étaient surpris, transgressant les règles. Leur oncle, sourcils poivre-sel en broussaille au-dessus de ses petits yeux bleus, le tarin retroussé par la moutarde qu'il piquait et la bouche en cul de poule, réfléchissait à voix haute. « Vain Dieu, mais votre père a raison. Avec vos sottises, vous allez finir par nous attirer des ennuis. On ne va quand même pas vous enfermer dans vos chambres jusqu'à la fin de la guerre. » Il verrouilla la porte et reprit d'une voix basse mais ferme. « Écoutez les ptios, ça suffit. Vous allez arrêter vos conneries et retourner jouer aux billes. Compris ?» Damien sortit de ses gonds. « Alors t'es comme papa, un froussard. Ah ben on s'est drôlement trompé sur ton compte. » Il reçut une mornifle magistrale avant même d'avoir pu terminer sa phrase et finit le cul sur les tracts, la tête dans une toile d'araignée. Pierrot l'empoigna ensuite par le bras et le décolla du sol sans prêter attention à ses gémissements. « Je t'interdis de causer ainsi de ton père. T'entends, Damien ?» Il reposa le cadet au sol, en serra d'une main l'épaule gauche de l'aîné et de l'autre attrapa par la peau du cou. « Bande de chenapans. Ce qui se passe dans le village et dans le monde est très grave et doit se régler entre adultes. Trop de malheurs endeuillent les familles, trop de sang a déjà coulé et l'occupant est un adversaire bien plus cruel que le croque-mitaine. Partout la guerre règne, la vraie, on ne s'amuse pas. Tous les jours, des gens meurent. Je vous interdis désormais de vous planquer près de la mairie, de talonner les gens d'ici ou d'ailleurs, et de faire Dieu sait quelles âneries en douce. » Il se tut et les scruta. Ses sourcils se détendirent, son front se dérida. Pensant qu'il en avait fini avec sa tirade, les gosses guettaient un moment opportun pour lui fausser compagnie, mais sûr de lui, il reprit « Et donnez-moi tout de suite ce carnet dans lequel vous notez toutes les saloperies observées. Oh, ne prenez pas cet air surpris, je vous ai à l'œil depuis pas mal de temps, et je suis pas le seul. » »« On l'a pas sur nous, » lui rétorqua Marcel contrarié, puisqu'il était inutile de nier. Marcel, t'as 15 ans. T'es plus tout à fait un gosse, mais t'es pas encore un homme, alors tu vas rester à ta place. Mais tu ne vas surtout plus comploter avec ton petit frère. Je ne plaisante pas. Vos actes pourraient avoir de lourdes conséquences. Et dès ce soir, avant le couvre-feu, tu m'apporteras ce cahier d'écolier qui vous sert, mais qui pourrait en desservir d'autres. Et pas un mot de tout ça, même à votre mère.
Voilà. Alors j'ai choisi de vous emmener sur cet extrait parce que l'histoire des Alpes, du Vercors et de la Résistance, c'est quelque chose qui est assez connu et j'ai beaucoup aimé cette inversion des points de vue avec les deux enfants qui voudraient être résistants et s'étonnent que la Résistance n'existe pas autour d'eux ou en tout cas ne soit pas à la hauteur de ce qu'ils espèrent et décident de mener leur petite résistance un petit peu comme si c'était encore un jeu d'enfants. Et bien évidemment, ce n'en est pas un puisque ce que je vous ai lu est le point de départ d'un drame qui va les dépasser et prendre des proportions qu'ils n'imaginent pas une seule seconde et les poursuivre longtemps, longtemps après la guerre. L'intérêt de ce roman, c'est aussi d'imaginer, après la guerre, comment on vient régler les comptes, régler les histoires qui se sont passées dans un contexte particulier qui est celui de la guerre et qu'est-ce qui reste à régler après avec les héritiers d'un traumatisme pareil. Ce roman, c'est Neige pourpre, c'est signé Valérie Brun. Valérie Brun qui est une romancière spécialisée dans les romans historiques. Elle est également diplômée en histoire, elle donne des conférences sur l'histoire et elle est passionnée notamment par toutes ces histoires de filiation et de transmission à travers l'histoire. Le roman est publié aux éditions Zoner et vous pouvez retrouver Valérie Brun sur pas mal de salons de la région et bien sûr dans toutes les bonnes librairies. Où est-ce que je vous emmène la prochaine fois? Et si je vous emmenais en Italie, à Milan plus exactement? Ça vous dit? Prêt pour votre prochain voyage littéraire?